Alors la période de Pâques, c'est un moment qui renferme beaucoup d'espérance. C'est le printemps qui est déjà venu depuis quelques semaines. Les arbres sont en fleurs, là on voit les vergers magnifiques. Les oiseaux chantent de tous les côtés dès que le jour commence à pointer son nez. On commence à voir des abeilles qui sortent pour aller butiner dans les fleurs. Bientôt on va voir les hirondelles qui vont revenir et reprendre leur nid. Et à Pâques, c'est non seulement la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est aussi sa résurrection. Et loin d'être une chose triste, au contraire, Pâques renferme une merveilleuse espérance. Et c'est le titre de mon message ce matin, Pâques, notre espérance. Et on peut dire que les croyants en Jésus-Christ ne peuvent pas être sans espérance. Parce qu'avec notre Dieu, on peut dire que le meilleur est toujours à venir. Et ça, c'est une vérité qu'on peut graver dans nos cœurs. Le meilleur est toujours à venir. Même si la vie chrétienne, parfois, elle renferme des saisons froides, hein, parfois on passe par des moments où c'est l'automne, c'est l'hiver, mais avec notre Dieu, c'est toujours suivi d'un printemps et puis après d'un été qui est verdoyant, qui est rayonnant. Et ça, c'est un principe on peut dire que ça remonte à l'origine des temps. Dans la Genèse, on lit, dès le premier verset, je vous le lis, hein, quand Dieu a créé le monde, il est dit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et Dieu n'a pas dit, il y eut un matin et il y eut un soir, ce fut le premier jour. Mais il a dit quelque chose on n'est pas habitué à entendre ça. Il y eut un soir et après, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et on peut dire que le principe de l'espérance était déjà là. Ça commence par les ténèbres, par le soir, par la nuit, mais ça se termine par le jour et par la lumière. La nuit est chassée par le lever du soleil. Après la nuit vient l'aurore, hein, vous connaissez le cantique. Mais il faut commencer par la nuit, commencer par le soir, hein, et puis après, eh bien, en venir au matin, connaître le matin. Et ça, c'est quelque chose qui se vérifie dans notre vie, et ça s'est vérifié aussi dans la vie du Fils de Dieu. On va prendre Luc, chapitre 22. Luc 22. Versets 39 à 46, il est dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un geste de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et les mots qui frappent ici dans ce récit, c'est agonie, sueur, grumeaux de sang. Et on peut dire que Jésus est passé par des moments qui étaient difficiles au jardin de Gethsémané. Il a prié de toute son âme, de tout son corps même, parce qu'il y avait une lutte, il y avait un combat en lui. Il savait que c'était la croix, la crucifixion qui l'attendait, et il ne voulait pas, dans son âme, aller jusque-là. Parce que ça signifiait la mort. C'était la mort. Et la mort, c'était pour lui la séparation d'avec son père. La mort, c'est toujours la séparation. Et là, eh bien, c'était séparation d'avec son père. Lui qui venait d'un royaume de lumière, du père des lumières, il allait être plongé dans les ténèbres. Alors il a lutté, lutté, jusqu'à dire, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Je me plie à ta volonté. Et ça, c'est aussi dur quand nous, eh bien, on a nos Gethsémanés. si ce n'est pas la croix forcément, la volonté de Dieu nous mène toujours dans des épreuves. Et le psalmiste appelle cela les vallées de l'ombre de la mort. Et on a des vallées de l'ombre de la mort dans nos vies. Et c'est à ce moment-là qu'il faut dire comme Jésus, non pas ma volonté qui veut fuir, mais ta volonté, Seigneur, j'accepte. Et pour les disciples, ce n'était pas non plus un moment de joie. Notre texte dit qu'ils étaient endormis de tristesse. Endormis de tristesse. Ils étaient tristes, profondément tristes. Alors, ils ne comprenaient sûrement pas tout ce qui se passait autour d'eux, mais ils en comprenaient suffisamment pour avoir l'âme qui était abattue, qui était accablée. Alors, on continue l'histoire. Ensuite, Jésus est dénoncé par Judas, puis arrêté par les soldats. Et puis là, on voit les ténèbres commencent à s'épaissir de plus en plus. Luc 22, verset 63. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant: Devine qui t'a frappé. Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Et donc, c'est des moqueries, des crachats même, des coups, des injures. Et on peut dire, notre Seigneur, là, il est dans le creuset de l'épreuve. Il passe par l'humiliation, mais c'est l'humiliation de la part de sa propre créature. C'est terrible. Et on peut se demander, mais où était la lumière, où était le jour, là, pour le Fils de Dieu? Dans ce déferlement de haine et de violence. Et on peut dire, Jésus était au milieu des ténèbres. Ensuite, on le prend. On le transporte comme un pantin devant un responsable et puis devant un autre responsable de l'autorité. Il est questionné, il est raillé et finalement, il va entendre la foule qu'il avait accueillie 7 jours plus tôt en disant Hosanna, cette fois qui dit crucifie-le, crucifie-le. Regardez Luc 23, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, Celui-ci est le roi des Juifs. Et là, on voit Jésus qui est élevé sur la croix. Il a les mains, il a les pieds qui sont percés. Et on peut dire, le voilà en train de vivre l'horreur. L'horreur, c'est une mort, qui est lente et douloureuse. Il y a la souffrance des clous dans la chair, la souffrance du poids du corps qui tire sur les clous, la souffrance d'une respiration qui devient de plus en plus pénible, difficile, et puis aussi la souffrance de porter le poids du péché de l'humanité. Il est dit dans la Bible qu'il a porté en son corps, sur le bois, nos péchés. Donc il y avait la culpabilité des hommes, des autres hommes, des coupables, qui reposait sur Jésus, lui qui était innocent. Luc, verset 23, chapitre 23, verset 44. Il était déjà environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, Certainement, cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, se retournèrent, frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Et on peut dire que Dieu, dans ce moment de ténèbres spirituelles, a permis que les ténèbres deviennent physiques. Le ciel s'est obscurci, les nuages ont caché le soleil, quoiqu'il était midi. Ils étaient pratiquement dans les ténèbres. Et Jésus a payé pour nos péchés avec un dernier cri, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il est mort. Et on peut dire, Jésus était venu pour cette heure-là. Il est venu pour payer pour chacun de nos péchés. Il a payé pour nos péchés. On peut imaginer aussi la tristesse des disciples. Tristesse des disciples parce que Jésus, c'était leur maître, leur Seigneur. C'est celui qui les avait conduits pendant 3 ans. Ils avaient écouté sa sagesse. Ils avaient vu les miracles qu'il avait faits. Ils avaient trouvé en lui vraiment le chemin, la vérité, la vie. Et le voilà mort. Il est mort sur la croix. Et l'histoire, si Jésus n'avait été qu'un simple homme, elle se serait arrêtée là. C'est tout. On l'aurait mis au tombeau et ce serait terminé. Parce que la mort, c'est la fin de tout homme. Tous les hommes terminent dans un tombeau. Mais pour Jésus, fils de Dieu, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Un matin. Et ça, c'est ce que Dieu prévoit dans toutes ses œuvres. Un soir et un matin. Luc 20, chapitre 24, versets 1 à 12. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, c'est les femmes qui étaient autour de Jésus, de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Jésus est ressuscité. Les anges ont dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Parce qu'il était revenu à la vie. Et on peut dire que la vallée de l'ombre de la mort était terminée pour Jésus. Il en est ressorti avec un corps vivifié, plein de vie, un corps qui était glorifié. Et puis la vallée de l'ombre de la mort, hein, la tristesse des disciples, elle allait aussi s'achever. Après la nuit vient l'aurore. Et ça, c'est l'espérance chrétienne. Et on peut dire que c'est l'espérance de la Pâque. Ça nous montre que le meilleur, il est à venir. Le meilleur, il est après. La nuit permise par Dieu, elle donne toujours naissance à un matin quand on est un enfant de Dieu. Et notre vie, elle peut passer par beaucoup de vallées de l'ombre de la mort, des vallées qui sont difficiles, mais Dieu a toujours un avenir et de l'espérance pour celui qui met sa confiance en lui. Ça se tout termine toujours par la lumière du jour. C'est quelque chose qu'on vérifie dans l'histoire du peuple de Dieu. On voit plein d'hommes qui ont vécu des choses avec Dieu et à chaque fois, eh bien, c'était des moments difficiles et hop, ils ont finalement vu le jour qui s'est levé. Pensons un peu à l'histoire de Noé. Quand Dieu lui a demandé de construire une arche, il est entré, on peut dire, dans une vallée qui était difficile. C'était un travail qui était difficile pour lui, c'était un ouvrage qui était gigantesque. En plus, il était raillé, il était moqué par les hommes de sa génération qui le prenaient pour un fou. Ce n'était pas facile pour lui de continuer, persévérer dans son travail et croire toujours mettre sa confiance dans la parole qu'il avait reçue du Seigneur. Et puis ensuite, Noé est monté dans l'arche et il a vu le refus de tous les autres de monter dans l'arche. Dieu a finalement fermé la porte, la pluie est tombée, les jours ont passé, 40 jours, 40 nuits, il est dit dans la parole de Dieu. Le ciel était sombre, c'était les ténèbres, des pluies torrentielles. 40, dans la Bible, c'est le chiffre de l'épreuve. Et c'était une épreuve aussi de rester 40 jours enfermé dans cette arche. Mais finalement, Noé a vu le soleil qui a commencé à pointer son nez. L'arche s'est posée sur le mont Arara. Et puis il a pu descendre avec toute sa famille et l'épreuve était terminée. Mais Noé n'est pas le seul à être passé par des chemins qui étaient difficiles. Prenez l'exemple de Joseph. Joseph, lui, a connu une vallée qui était terrible. Persécution de ses propres frères, de sa famille, esclavage, prison. Mais finalement, Joseph, il a vu aussi le matin se lever dans sa vie quand il a été subitement élevé à la position de gouverneur de toute l'Égypte, élevé comme ça. Il a vu le jour se lever. Psaume 34, verset 20. Il est dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Et le juste, celui qui croit, qui met sa confiance en Dieu, il n'est jamais épargné. Il connaît des heures qui sont difficiles, qui sont sombres, mais parce qu'il est juste, parce qu'il est un enfant de Dieu, alors il peut avoir l'assurance que l'Éternel l'en délivre toujours, toujours. Ça signifie qu'on a une vraie espérance de voir le jour se lever alors que nous sommes dans nos épreuves. L'Éternel nous délivrera toujours. Alors, l'histoire de Joseph se continue, hein. Le peuple d'Israël grossit en Égypte et puis le pharaon qui était avec plein d'égards pour la famille de Joseph, hein, est remplacé par d'autres pharaons. Et finalement, Israël, le peuple d'Israël, entre dans une vallée encore qui était terrible, la vallée de l'esclavage. Pendant 400 ans, esclaves en Égypte. Un esclavage qui va finalement les souder entre eux, hein, qui va les unir comme aucune autre épreuve ne pouvait le faire. Mais les Juifs, après ces 400 ans d'esclavage, ont vu le matin se lever avec Moïse qui les a délivrés. Et Dieu qui leur accorde une délivrance glorieuse, traverse la mer Rouge à pied sec. Parce que le peuple de Dieu voit toujours son matin arriver. Il y a un soir et puis il y a un matin. On pourrait encore citer l'histoire de Job. Job. Job, il a vu un soir, et quel soir, hein, on peut dire, mais c'était terrible. Perdre ses enfants, ses biens, tout ce qu'il possédait, perdre la santé. Et il a vu un matin se lever aussi pour sa vie. Il a été délivré. On voit aussi le prophète Jérémie qui a connu ça. Si vous voulez prendre Lamentation de Jérémie, Lamentation de Jérémie, chapitre 3 et verset 1. Jérémie dit: Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Jérémie, qui est prophète de l'Éternel, est descendu dans une vallée en exerçant son ministère de prophète. Il était chargé de mettre en garde le peuple de Dieu, de le ramener à la raison et de lui faire prendre conscience de son péché. Mais en fait, le peuple de Dieu, Israël, ne voulait rien entendre à ce que Jérémie disait. Au contraire, ils ont persécuté ce prophète. Alors Jérémie était dans l'abattement. Il avait le sentiment d'être dans les ténèbres. Verset 14, regardez. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. chaque jour l'objet de leur chanson. Ils le chantaient, ils se moquaient de lui. Versets 17 et 18, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Et là, Jérémie est comme au bord de la dépression. Cette vallée, elle l'anéantit. Il n'a même plus d'espérance en l'Éternel. Et nos épreuves, elles peuvent parfois aussi nous mener dans la désolation, dans la tristesse, où on n'a plus d'espérance. Mais Jérémie, en fait, connaît son Dieu, et quand il touche le fond, là, il reprend ses esprits, il va se ressaisir. Regardez versets 21 et 23, 21 à 23, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et Jérémie sait qu'avec l'Éternel, il y a toujours un matin après le soir. Toujours un matin. Et les matinées de Dieu, elles sont remplies de ses bontés et de ses compassions. Il y a un verset qui dit dans les psaumes, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Et ça signifie que Dieu peut tout changer. Il peut nous faire sortir de la nuit de l'épreuve et nous combler de ses bontés, de ses compassions et nous redonner sa paix, sa joie. Et on peut dire que le jour de Pâques, c'est un jour d'espérance. Ça nous montre qu'en Dieu, il y a toujours une espérance. Parce que la mort a laissé place à la vie. La mort, c'est ce qu'il y a de plus triste, de plus sombre, de plus noir. Mais elle est laissée place à la vie. Et les enfants de Dieu devraient continuellement avoir l'espérance que le meilleur, il est à venir. Puisqu'ils sont enfants de Dieu, le meilleur, il est à venir. Alors toutefois, il est certain que certains chrétiens ne semblent pas voir le matin. Connaître le matin de leur vivant. Si on regarde par exemple les martyrs qui furent brûlés hein, autrefois, on se dit, mais où était leur matin là? Où était leur délivrance? Ou bien quand on connaît un sœur ou une frère hein, qui est emporté par une maladie, on se dit, mais où est la délivrance? Mais Dieu n'a pas forcément promis que l'on connaisse un matin de délivrance sur la terre. Regardez Jésus, il n'a pas été délivré de la mort. Sa vie, au contraire, elle n'a fait que plonger, plonger, toujours plus dans les ténèbres, et jusqu'à l'agonie. Et sa délivrance, elle était juste après la mort. Elle était là, juste après la mort. Romains 8, verset 18. Il est dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et même si on connaît des souffrances et qu'on ne voit pas la délivrance, hein, c'est terrible. Je connais quelqu'un qui vit avec un mal de tête, des maux de tête, une migraine terrible qui l'empêche même de se concentrer pour vous écouter. Et c'est permanent, tout le temps. On se dit, ça fait des années que c'est comme ça. Alors moi, j'espère qu'il va être délivré ici sur la terre, mais si ce n'est pas le cas, alors je sais qu'il va connaître une merveilleuse délivrance dans l'au-delà. L'aurore va finir par se lever. Et ces souffrances, elle ne saurait être comparée à la gloire à venir. Dieu juge que nos souffrances ici sont petites comparées à la gloire immense qu'il nous réserve. Et on peut dire que ces pleurs vont se changer en allégresse. C'est comme Jésus. Jésus, il a connu une fin qui était terrible, qui était difficile, pleine de souffrances. Mais il y a eu le matin de la résurrection qui l'a transporté jusque dans la gloire. Et le meilleur, il est à venir même si ce n'est pas sur la terre. Dans le sermon sur la montagne, Jésus, avec les béatitudes, confirme encore ça. Il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Ils vont connaître un jour une consolation immense, une paix profonde, un réconfort. Il a dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ça signifie que les croyants, eh bien, ils peuvent parfois terminer leur vie dans une sombre vallée, comme Jésus. Mais Dieu promet toujours qu'il y aura un matin, une résurrection. Il a dit heureux, heureux. Pour l'instant, c'est pas heureux. C'est triste, c'est difficile, mais heureux serez-vous. Et même si certaines vies chrétiennes, elles sont difficiles, heureux ceux qui croient en Jésus. On a une espérance que ça va se terminer bien, parce que c'est toujours un soir qui se termine par un matin pour les enfants de Dieu. Les anges, souvenez-vous, les deux hommes qui étaient en fait des anges, ont dit aux femmes qui sont venues au tombeau, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et si elles étaient venues au tombeau pour l'embaumer, c'est qu'elles n'avaient plus d'espérance. Elles n'avaient plus aucune espérance. Elles n'avaient plus que le souvenir marqué dans leur mémoire de la veille, Jésus crucifié, Jésus descendu de la croix, Jésus mis au tombeau. Mais Jésus n'était plus parmi les morts parce qu'il était revenu à la vie. Et on ne devrait jamais rester sur l'idée d'une défaite et se dire, il n'y a plus d'espérance, ce n'est pas la peine, ça ne peut pas changer. On n'a pas le droit de dire ça si on a Jésus comme sauveur. Parce qu'il nous enseigne au contraire qu'en lui, il y a toujours une espérance. Parce qu'il a vaincu la mort, et la mort, normalement, met un terme à toute espérance. Terminé. Plus d'espérance. Et lui, il a vaincu ça. Et ça doit nous donner une joie, une paix, une certitude qu'il y a toujours une espérance. On n'a pas le droit de penser qu'il n'y a plus d'espérance. Quelles que soient nos épreuves, nos vallées, nos difficultés, Dieu dit qu'il y a toujours une espérance pour le chrétien. Je vous lis un psaume, enfin un verset d'un psaume, psaume 62, verset 6. Il est dit, oui mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient ton espérance ou mon espérance. Confie-toi en lui, car de lui vient ton espérance.